ça compte avec Éric Auziel.
Toujours débalancé un lundi de fête quand je parle à Éric à 9h parce qu'habituellement, on ouvre le tailgate week-end avec lui. Très heureux de le retrouver. Éric Auziel, comment ça va?
Greg, ça va super bien. Et j'étais là à 7h45 avec toi, Bob et l'entraîneur-chef de l'équipe Letton.
Artis Abols. J'ai même parlé quelques mots de letton. Officiellement, la première entrevue que j'ai faite en trois langues.
Ouais. Écoute, je suis convaincu que les patrons prennent note depuis quoi? Ça fait trois semaines que tu es en onde à tous les jours?
À peu près.
Toi et Olivier, là, le livre Guinness.
C'est 24 heures de radio en 6 jours. Ça, c'est un très, très beau stretch. Je peux pas croire que ça se termine demain. C'est beaucoup trop
rapide. Comment on appelle ça? On appelle ça un téléthon.
Écoute,
un radioton.
Oui, un radio. Ça aurait été le fun qu'on puisse d'ailleurs amasser des fonds ou quelque chose. Hein? Et voilà, une autre idée qui vient de naître l'année prochaine.
Voilà.
Écris ça dans le cahier quelque part. Nous gardons ça comme idée. Il sort vraiment son cahier pour l'écrire. Est vraiment à la tâche comme ça. La semaine 17 dans la NFL, presque finie. Il reste un match ce soir, bien sûr, le Monday Night Football. Il y a des décisions qui sont données avant le début de la saison. Je pense, là, rendu à la semaine 17, on a le droit de revenir là-dessus, Éric, là, parce qu'il y a eu des très, très mauvaises décisions dans l'entre-saison par plusieurs états-majors. Puis c'est drôle, comme mon petit doigt me dit, je sais pas de quoi tu vas me parler, mais j'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ces équipes-là.
Ben oui, exactement. Puis on avait des doutes au moment où les équipes ont pris des décisions, puis maintenant, on regarde avec le recul, puis on se dit, tu sais, il y a des équipes qui sont tout le temps bien administrées, puis il y a des équipes qui sont mal administrées. Tu sais, je prends les Bears de Chicago. Matt Eberflus, on se doutait qu'il serait pas là à long terme. On avait congédié son coordonnateur offensif. On lui en a imposé un autre et puis on hésitait, on l'a ramené et on a été chercher Caleb Williams. Puis là, ben tout le monde se demande, plusieurs se demandent, est-ce que c'était le bon choix Caleb Williams par rapport à Jaden Daniels? Il est trop tôt pour déterminer ça. Il n'y a pas de mauvaise saison, Caleb Williams. C'est juste que Jaden Daniels a été beaucoup mieux entouré avec un instructeur beaucoup plus expérimenté et qui avait vraiment le support de ses patrons, alors qu'Eberflus, on sentait là, que dès que ça allait commencer à aller mal, il allait partir. Fait que, tu sais, je veux dire, mais avec le recul, c'est trop tôt pour déterminer. Par contre, à Dallas, tu peux questionner, être en accord ou en désaccord avec le fait qu'on a ramené Mike McCarthy. Et je pense qu'il risque d'être là encore l'année prochaine, à la grande frustration de plusieurs partisans. Parce qu'il a il a l'appui de ses joueurs. Mais on avait l'opportunité, Jerry Jones avait l'opportunité de signer Derrick Henry, un des merveilleux porteurs de ballon encore cette année. Et il a dit, non, c'est pas tout à fait le bon type de porteur de ballon pour notre système de jeu. Ça, pour moi, c'est une aberration, Greg. Et tant mieux pour tes Ravens.
J'ai jamais été aussi heureux d'une mauvaise décision des Cowboys.
C'est incroyable.
Ça, c'est sûr. Ben oui. On semble avoir trouvé la bonne balance, là, le bon équilibre entre Lamar Jackson et Derrick Henry. Mais on n'est pas là pour parler des Ravens parce qu'il y a d'autres mauvaises décisions qui se sont prises ou pas prises.
Ben, une décision qui était presque impossible à prendre, c'est qui allait suivre Bill Belichick. Puis là, on avait un jeune prodige, selon Robert Kraft et son garçon, c'est Jared Mayo, qui est un ancien joueur des Pats, un gars qui avait énormément de leadership, un gars qui est allé dans l'entreprise privée, un gars qui a touché à plusieurs choses, qui est revenu, Belichick l'a ramené, et puis on a dit, voilà le gars qui va suivre Belichick. Puis c'est un désastre. Moi, je m'attends à ce que dans les prochaines journées, probablement après la semaine 18, il soit congédié. Puis peut-être qu'on va aller chercher Mike Vrabel, qui a déjà joué avec les Pats aussi, qui est un instructeur d'expérience.
Mike Vrabel, en restant sur les lignes de côté, là, en faisant rien pantoute, a fait augmenter sa valeur.
Ouais.
Tu sais, tu parles de Vrabel avec les Pats, là. On parlait déjà de lui avant, qui viennent avec les Pats, et on parle de lui à Chicago énormément aussi.
On parle de lui à Chicago. Pete Carroll a levé la main, 73 ans, puis a dit, écoute, moi j'ai encore plein d'énergie, j'aimerais ça aller avec les Bears. Tu sais, il y a des organisations qui prennent des drôles de décisions, puis tu dis, année après année, ils sont dans la médiocrité, ça s'explique, tu comprends? Puis je reviens aux Pats, c'est impossible de suivre Bill Belichick, c'est impossible. Premièrement, l'équipe t'as pas bonne. Tu peux pas tu peux pas renverser la tendance du jour au lendemain comme ça. C'était pas nécessairement la faute à Belichick. C'est éventuellement, je veux dire, sur du long terme, il y a des cycles. Puis Jared Mayo, ben il a été sacrifié. Puis moi, je pense pas qu'il va revenir l'année prochaine. Ils ont des grosses décisions à prendre du côté des Patriots. Tu sais, il y a plusieurs. Puis il y a des bonnes décisions qui ont été prises. Les Vikings avec Sam Darnold, il faut en parler là. Il est absolument extraordinaire. T'as vu la vidéo hier quand il est revenu dans le vestiaire, comment les joueurs l'ont accueilli.
Écoute, Sam Darnold, et j'aurais, moi, je m'étais concentré sur deux joueurs seulement pour le Walter Payton Man of the Year Award. Mais je me souviens plus de la cote de Sam Darnold avant le début de la saison. Là.
Elle était pas forte.
Ben, elle était pas forte ou elle était très, très forte, là, dépendamment de la façon qu'on voit ça. Là. C'est comme se coucher tard ou se coucher tôt.
C'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que Sam Darnold a été dans plusieurs organisations. C'était un choix de première ronde, un gars qui a brillé, pas toutes les années qu'il a été à USC, mais un gars qui a brillé un petit peu comme Caleb Williams. Les Jets en ont fait leur choix. Ça n'a pas été concluant. S'est promené. Se retrouve avec les Vikings. Kevin O'Donnell, le bon système pour lui. Puis là, il y a une grosse décision. Tu sais, je te parlais des décisions qu'on va regretter ou qu'on a regrettées. Ben là, il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec lui l'année prochaine? Parce que avant le début de la saison, si J.J. McCarthy se blesse pas, c'est J.J. McCarthy qui commence la saison avec les Vikings comme corps partant. Mais il n'a jamais joué une série dans une partie régulière. Fait que, tu sais, il y a de l'inconnu avec J.J. McCarthy. Puis les années qu'il a joué à Michigan avec Jim Harbaugh, lançait pas souvent le ballon, tu comprends? Donc, moi, je pense que c'est important de le ramener, Darnold, de lui donner l'étiquette de joueur de franchise pour essayer de contrôler un petit peu la masse salariale. On peut le faire cette année, ben, pour l'année 2025, puis voir exactement ce que ça va donner. Une année de plus à McCarthy sur les lignes de côté à apprendre son métier, c'est pas dramatique. Puis là, on verra après ça ce qu'on fait avec Darnold. Est-ce que c'est le Sam Darnold de cette année qu'on va avoir ou c'est le Darnold des années où ça a été difficile pour lui, sa lecture de jeu, sa précision au niveau des passes? Mais cette année, il est vraiment très bon. Puis les Vikings, dont personne ne parlait pendant longtemps, ben la semaine prochaine, pourraient techniquement finir premier de leur division. Et non seulement premier de leur division, mais pourraient avoir le classement numéro un dans la nationale.
Et personne n'avait prédit ça en début de saison. Même pas les gens au Minnesota. On disait, notre corps arrière, on va savoir c'est qui rendu au repêchage. Et finalement, comme tu l'as dit, on se ramasse dans une situation où on a des grosses décisions à prendre pour le futur. Tu dis, tu sais, McCarthy reste là, apprend encore sur les lignes de côté pendant qu'on a Darnold. Darnold sait que la NFL, ça veut dire « not for long ». Il va vouloir signer un contrat lucratif et à long terme également.
Oui, sauf que si on lui donne l'étiquette de joueur de franchise, on le garde. Ça fait en sorte qu'on peut peut-être pas aller compléter son alignement avec des joueurs de position parce que là, on va être limité un petit peu au niveau de la masse salariale. Alors que l'avantage de dire « on y va avec McCarthy », c'est qu'on a plus d'argent pour aller chercher d'autres joueurs, mais l'alignement des joueurs déjà sous contrat pour l'année prochaine des Vikings est déjà excellent. C'est une équipe, avec des joueurs qui peuvent gagner maintenant et qui veulent gagner maintenant. Ouais. Alors, si tu demandes aux gars dans le vestiaire, tu as vu la réaction hier soir des joueurs, hey, ramène-nous Darnold, là. Lui a l'expérience, on sait qu'on peut gagner avec lui. On ne sait pas ce qu'on va avoir de McCarthy, tu comprends? Comme on ne sait pas ce qu'on va avoir de Caleb Williams sur le long terme, ni Jaden Daniels.
Hey,
tu comprends? S'il y a une chose qu'on a appris dans les derniers 15-20 ans, là, c'est qu'un quart arrière, tu peux pas l'évaluer vraiment avant 3-4 ans.
Mais non, et on abandonne rapidement sur des corps. Tu sais, on parlait de T-Steelers là, qui sont rendus avec Justin Fields. On abandonne sur Justin Fields, on veut rebâtir avec Williams. Ben, Justin Fields avait des meilleurs chiffres que Caleb Williams alors qu'il était moins bien entouré. Et on en a déjà parlé, oui.
Il y a une photo virale présentement sur les réseaux sociaux avec les deux corps arrière qui étaient avec les Panthers de la Caroline il y a pas si longtemps que ça. Baker Mayfield et Sam Darnold.
C'est capoté.
Et aujourd'hui, ces deux gars-là sont parmi les 5 ou 10 meilleurs corps arrière. En tout cas, statistiquement parlant, ils ont vraiment connu une renaissance dans les dernières années.
Cette saison.
Ça te montre à quel point il faut être patient et plus souvent qu'autrement, c'est une question de situation. Là, Sam Darnold est dans une bonne situation avec les Vikings. Ouais. Kevin O'Connell est un des meilleurs coachs offensifs de la NFL. Et on voit enfin le Sam Darnold qu'on pensait voir quand il a été choisi troisième au total.
Exact, exact. Et puis, tu sais, on pourrait dire la même chose de Jared Goff.
Ouais.
Tu comprends? Qui a amené, oui, les Rams au Super Bowl. Ils ne l'ont pas gagné. Mais les Rams ont dit, hey, c'est-tu quoi? On ne pense pas qu'on peut gagner avec Jared Goff. On va aller chercher Matthew Stafford, qui a été concluant pour les Rams à ce moment-là. Mais tu sais, on se demandait, bon, Jared Goff, est-ce qu'on s'en est débarrassé? Et puis là, ben, dans le bon système, pis c'est là que je reviens à qui est ton entraîneur-chef, qui sont tes coordonnateurs offensifs et défensifs. C'est tellement important dans la Ligue nationale de football. Et puis avec les Bears, ben, on répète les mêmes erreurs. Et là, ben, je me demande là, qu'est-ce qui va se passer avec ces Bears, parce que là, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup d'instructeurs qui veulent aller là, parce que je pense que Caleb Williams peut avoir une belle carrière. Moi, j'aurais pris Daniels premier, personnellement. Mais l'histoire n'est pas terminée. Fait qu'on va voir. Mais ça va être intéressant dans le cas de Darnold. Puis, bon, parce que les Lions ont gagné contre les Vikings, je pense que c'est le 20 octobre 31-29. Ils ont l'avantage dans leur division. Donc, la semaine prochaine, ce match-là est vraiment important entre les Vikings et les Lions, même si les Lions jouent ce soir contre les 49ers. C'est le match de la semaine prochaine que tout le monde va regarder.
Effectivement. Et il y a d'autres organisations qui se grattent la tête à se dire, tu sais, les Eagles de Philadelphie, par exemple, Saquon Barkley est à 101 verges d'Eric Dickerson. On fait quoi, là? On le fait jouer ou on le repose en vue des éliminatoires? Ça aussi, c'est tout un dilemme.
Ben, pour moi, je t'explique, Eric Dickerson a affirmé haut et fort.
Il voulait pas que son record soit battu.
Alors que la plupart des joueurs disent tout le temps dans ces situations-là, ben écoute, je serais content pour lui, puis les records sont faits pour être battus. Lui, il a dit non. Et il a aussi insisté en disant, moi j'ai fait ça en 16 parties. Maintenant, c'est 17 parties dans la NFL, la Ligue nationale de football. Fait que, tu sais, Dickerson, qui était un porteur de ballon extraordinaire, comme Barkley, moi, personnellement, je le laisserais jouer, Barkley. Tu comprends? Je le laisserais jouer. Il y a une saison extraordinaire. Va chercher tes 100 verges. Puis c'est pas garanti qu'il va les avoir, les 100 verges. Je pense qu'ils ont d'autres préoccupations. La santé de Jalen Hurts, c'est une grosse préoccupation. Puis je te dirais que l'autre préoccupation, moi qui n'ai pas un partisan des Eagles, mais pour un gars comme Ben Roger, c'est leur entraîneur-chef. Ce gars-là a le don de s'auto-saboter. Je sais pas si tu as vu la semaine passée l'engueulade qu'il a eue avec Zach Hurts, son ancien allié rapproché, qui est maintenant avec les Commanders. Ce gars-là est tout le temps dans des drôles de situations. C'est un bon instructeur, mais...
Les partisans, il y a une couple de semaines, puis c'est pas facile pour Nick Sirianni. Mais dans la NFL, la victoire corrige tout.
Oui, exactement. La victoire corrige tout. Puis, fait que c'est ça. Donc, moi, je le laisserais jouer, Barkley. Puis, je le laisserais aller chercher s'il est capable d'aller chercher ses 100 verges. Parce que, oublie pas, il y a une fierté pour le porteur de ballon. Il y a une fierté pour les joueurs de ligne aussi, là. Tu sais, c'est un travail d'équipe, là, aller chercher ces verges-là. Fait que, moi, je le laisserais aller chercher. Mais ceci dit, ils prendront leur décision en temps et lieu.
Ben oui. Puis, écoute, il y a des dangers de reposer également trop les joueurs. T'sais, on avait vu ça souvent en éliminatoire de vouloir reposer des joueurs en fin de la saison. On arrive, on a de la difficulté à retrouver notre synchronisme.
Ouais.
Même des équipes qui ont des semaines de congé, parfois ça devient un petit peu difficile de l'emporter. Alors, on verra ce que les Eagles vont avoir comme décision à prendre, mais aussi les Vikings dans le futur. Éric, il nous reste une minute avant de se laisser. Là, on pose la question à tout le monde parce que c'est vraiment la question du jour. Qui n'est pas notre question du jour, mais c'est la question du jour à se poser. Jake Evans, tu y donnes combien pour combien de temps?
Qui aurait pensé, il y a quelques mois, que le sujet d'actualité du Canadien de Montréal, outre la belle performance des derniers matchs, c'est Jake Evans? On parle plus présentement de Jake Evans que de Patrick Laine ou de joueurs vedettes. Puis avec raison, parce que vraiment, présentement, il brille. Puis moi, là, hier, tu m'as posé la question, puis j'ai été faire des devoirs. Puis on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, OK? Puis j'ai été chercher des comparatifs. Présentement, là, Evans, quand tu vas consulter les sites spécialisés, on le considère comme un C4. Suzuki, c'est C1, donc joueur de centre du premier trio.
Ouais.
Evans, c'est un C4 dans les sites spécialisés, Puckpedia et tout ça. Et quand tu regardes les C4, là, il y a quelques joueurs de C4 qui vont être agents libres. un qui est agent libre cette année, à la fin de la saison, c'est Trent Frederick. Frederick a le même âge, 26 ans. A déjà eu 40 points il y a 2-3 ans. Il n'a pas une bonne saison cette année. Lui, il fait présentement 2,3 millions par année. Moi, là, je regarde Nicolas Roy, okay, qui est un C4. Mais là, il joue C3 cette année, mais il est blessé. C4 quand ils ont gagné à Stanley. Nicolas Roy est à 3 millions par année dans la, sur la masse salariale d'Impact, mais il fait 3,5. Moi, je pense que, tu sais, tu regardes Lars Eller, qui est beaucoup plus âgé. Lars Eller, qui est un C4, qui joue comme un C3 à Washington, c'est 2,4 millions par année. Puis Lars Eller, ils ont été le chercher à Washington parce qu'ils disent, si on veut gagner, on a besoin de ce joueur-là. Moi, je pense qu'Evans, là, hier, je t'aurais dit autre chose, mais après avoir consulté puis fait mes devoirs, moi, je vois pas plus que 3,5 pour Evans.
Pour combien de temps?
Ben, il y a 27 ans. J'y donnerais un 4-5 ans, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Tu comprends? Mais parce que je pense que ce qu'on voit d'Evans, c'est le joueur qu'on va avoir pendant quelques années. Je le pense. Tu comprends? Alors, mais tu comprends que Kent Hughes a des arguments pour dire, regarde les comparatifs. Et il y a beaucoup, tu sais, tu regardes une équipe championne, les Panthers de la Floride, qui ont été cherchés comme ces quatre, comme joueurs de centre numéro de son quatrième trio, c'est Thomas Nosek, qui a 32 ans, il fait 775 millions, 1000 par année. Tu comprends?
Ouais.
Là, je compare pas Evans et Nosek, mais Nosek a déjà joué avec les Vegas, a déjà été important dans cette organisation-là. On a besoin de joueurs de profondeur. Maintenant, je pense que 4 millions pour Evans, c'est un peu trop, mais je te rappellerai que le salaire moyen dans la Ligue nationale de hockey, au moment où on se parle, le salaire moyen, c'est 3,5 millions par année. Moi, je pense qu'Evans pourrait avoir le salaire moyen.
Effectivement. Écoute, Mathias et moi, on est direct là-dessus. Fait qu'on ait raison, qu'on ait tort, les c'est trois ça. Ont la même affaire. Fait qu'on est conséquent dans nos affaires.
Puis tu sais, ils vont arriver, l'argumentaire que le clan Evans va arriver, il va dire « Hey, Monsieur Hughes, savez-vous c'est quoi la moyenne de points des joueurs dans la Ligue nationale? » C'est 19 points par saison. C'est ça la moyenne. Là. Il y a des gars qui font 100 points, mais il y a beaucoup de gars qui font 8 points, 9 points, 10 points. La moyenne de buts dans la Ligue nationale, c'est à peu près 12 buts. Lui, là, il va être pas loin de ça, il est au-dessus. Fait qu'il va dire, hey, nous autres, là, on est au-dessus de la moyenne. Si le salaire moyen, c'est 3,5 millions, on veut 4. Puis on veut 4 pour 6 ans. Tu comprends? C'est ouais. Ça le jeu. Parce que lui, il se dit, c'est probablement la dernière opportunité que j'ai de signer un gros contrat. Je suis pas un joueur offensif. Il y a personne qui va vouloir de moi quand je vais avoir 33, 34 ans. Ça on va être... me signer comme Lars Eller.
Ça va être très intéressant. Éric, faut que je te laisse. J'ai pas d'autres mots à dire que ça. Ben, c'est malheureux, mais c'est ça.
Il faut que j'aille me préparer pour demain, parce qu'on revient demain.
C'est bon, ça. Il y en a un qui le savait dans la gang. Ça, c'est parfait. J'aime ça. Salut, mon Éric. À demain.
Bye. Bonne journée à tout le monde. Bye
Salut,
bye.
Mon chum. À toi aussi.